VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce lundi 29 octobre 2018. En RD Congo, des véhicules de l'armée remis à la commission électorale pour servir au scrutin du 23 décembre. En Centrafrique, un nouveau président du Parlement élu, un député tire en l'air en pleine séance.
Je m'engage immédiatement d'abord à la mise en place par une note des règles procédurales de dépenses et un comité sera mis en place.
Un nouveau chef du gouvernement nommé en Mauritanie après des législatives remportées par le parti au pouvoir. Une ère de rupture s'ouvre pour le Brésil avec l'élection de son premier président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. En République démocratique du Congo, la commission électorale a réceptionné aujourd'hui à Kinshasa un lot de camions et aéronefs de l'armée pour acheminer le matériel des élections de décembre, conformément à la volonté de la RDC de se passer de tout appui international. 150 véhicules de fabrication russe de marque Kamaz sont exposés devant le siège de la commission électorale, où les autorités en ont remis les clés au président de la CENI. Une dizaine d'avions et hélicoptères ont parallèlement été remises à la CENI lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport international de Ndjili dans l'est de Kinshasa. Un député centrafricain choisi par le groupe parlementaire de la présidence a été élu par ses pairs président du Parlement aujourd'hui après la destitution d'Abdoukarim Mekassoua vendredi dernier. Il s'agit de Lorangon Baba, âgé de 61 ans, ancien ministre sous le président François Bozizé. Le vote a eu lieu après qu'un autre député a tiré en l'air en séance en fin de matinée. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
El Hadj Lorangon Baba, député de Baboua dans l'ouest de la République centrafricaine, a été élu avec 112 voix sur 116 votants présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une élection intervenue peu après une débandade dans la salle où s'est déroulé le vote. Alfred Yekatom, député de Maïki 2, connu sous l'appellation de Rambo, a dégainé un pistolet automatique sur un de ses collègues en pleine séance, tirant deux coups de feu en l'air. La séance a repris plusieurs minutes plus tard après l'interpellation du député ex-chef de la milice anti-Balaka. El Hadj Lorangon Baba précise ses priorités.
Je m'engage immédiatement d'abord à la mise en place par une note des règles procédurales de dépenses et un comité sera mis en place pour, n'est-ce pas, élaborer le règlement financier de l'Assemblée nationale. C'est un outil financier qui est prévu par la loi. Autre élément, c'est la gestion des députés. Vous savez, les députés qui sont des élus du peuple ne sont pas gérés de la même manière que les fonctionnaires. Normalement, on le gère soit par consensus, soit par l'élection à chaque fois qu'on a besoin, n'est-ce pas, de désigner un des membres pour représenter l'institution.
El Hadj Lorangon Baba, député et un des membres influents de la communauté musulmane centrafricaine, succède ainsi à Abdoukarim Mekassoua, destitué le 26 octobre dernier par ses collègues députés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Nomination d'un nouveau Premier ministre en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a désigné ce lundi Mohamed Salam Ould Béchir en remplacement de Yahya Ould Hademine, qui a présenté la démission de son gouvernement 6 semaines après des législatives remportées par le parti au pouvoir. Monsieur Ould Béchir, un ingénieur de formation âgé de 56 ans, dirigeait depuis août 2016 la Société nationale industrielle et minière. Il était auparavant ministre du pétrole et de l'énergie dans le précédent gouvernement. Il doit entamer directement ses consultations pour former son nouveau cabinet. En Guinée, les rues de la capitale Conakry étaient vides ce lundi matin en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition, alors que le conflit qui paralyse l'enseignement depuis un mois ne trouve pas d'issue. Le point avec Nani Talani.
Les rues sont restées désertes dans certains quartiers de la capitale guinéenne où la circulation était interdite, tandis que le trafic était congestionné dans d'autres. Les forces de l'ordre, en état d'alerte, étaient peu visibles en ville. Elles sont restées en grand nombre dans les commissariats et gendarmeries. Très tôt, des jeunes ont brûlé des pneus sur la principale artère qui traverse la capitale. Ces feux ont été vite éteints par la pluie qui a refroidi par la même occasion l'ardeur des manifestants. À Siguiri, à l'extrême nord-est du pays, des centaines d'élèves ont manifesté pour réclamer le retour de leurs professeurs en grève illimitée. Selon Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, les enseignants ont décidé de durcir leurs actions lorsque le gouvernement a décidé de ne pas verser les salaires du mois d'octobre aux grévistes. De son côté, le président Alpha Condé aussi durcit le ton, disant que désormais, ce n'est pas le travailleur qu'on paye, mais le travail.
Le président gabonais Ali Bongo, victime d'un accident vasculaire cérébral, d'après l'agence Reuters, qui cite une source diplomatique et une source médicale, Ali Bongo a été hospitalisé mercredi dernier en Arabie Saoudite, où il assistait à la conférence économique de Riyad. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Ike Nguoni, dément et affirme que le président a été hospitalisé à la suite de malaise dû à une fatigue sévère, due à une très forte activité ces derniers mois, dit-il. Le chef de l'État est toujours hospitalisé à l'hôpital Roi Faisal de la capitale saoudienne. 11 personnes ont été enlevées au large du Nigeria. Tôt ce matin, un groupe d'hommes a attaqué leur bateau, le Pomerania Sky, appartenant à un armateur allemand et battant pavillon libérien alors qu'il faisait route vers le Nigeria depuis l'Angola. Nigeria toujours, 3 partisans d'un groupe chiite radical ont été tués durant le week-end en marge d'une manifestation dans la capitale fédérale après des affrontements avec l'armée. D'après un porte-parole militaire, des soldats transportant des armes et des munitions ont été attaqués par des membres du mouvement islamique du Nigeria samedi à Abuja. De nouveaux heurts ont éclaté ce lundi entre l'armée et des manifestants chiites. Quant aux djihadistes de Boko Haram, ils ont lancé une attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays, tuant un soldat. En Tunisie, une femme kamikaze d'une trentaine d'années s'est fait exploser dans la capitale cet après-midi à proximité de voitures de la police. Le ministère de l'Intérieur, qui parle d'une explosion terroriste, fait état d'au moins 9 blessés, dont 8 policiers. La déflagration s'est produite près du théâtre municipal sur l'avenue Habib Bourguiba, l'artère principale de Tunis. En Libye, au moins 5 personnes, dont 3 civils, ont été tuées ce lundi et 10 autres enlevées à Al-Joufra, dans le centre du pays, lors d'une attaque attribuée au groupe État islamique. La région d'Al-Joufra est contrôlée depuis plus d'un an par les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. Et puis la gouvernance en Afrique est en alerte, est en lente amélioration sur les 10 dernières années, avec un recul concernant la sécurité et l'état de droit d'après l'indice de la Fondation Mo Ibrahim, publiée aujourd'hui à Londres.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un vol intérieur de la compagnie aérienne indonésienne à Baku Lion Air s'est abîmé ce matin au large des côtes indonésiennes, peu après son décollage de Jakarta. D'après les services de secours, les 189 personnes à bord du Boeing 737 sont probablement mortes. Ils n'ont pratiquement plus d'espoir de retrouver des survivants. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le directeur opérationnel des services de secours indonésiens, des sauveteurs ont retrouvé des restes humains qui n'était plus intacte. Il est probable que les 189 personnes à bord soient déjà mortes, a-t-il déclaré. Cela fait plusieurs heures que les recherches ont été lancées et vont se poursuivre la nuit pour retrouver des victimes et des restes de l'appareil qui se trouvent à une profondeur de 30 à 40 mètres. Jusque-là, ils n'ont retrouvé que des débris, dont un morceau de la queue de l'appareil avec le logo de Lion Air, des vêtements, des papiers d'identité, mais pas de boîte noire. L'avion à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka au large de Sumatra, a disparu hier des radars 13 minutes après son décollage de Jakarta vers 23h30, temps universel. Cet appareil, un Boeing 737 MAX 8, est entré en service en août dernier. La compagnie a reconnu avoir dû effectuer des réparations sur l'appareil peu avant son dernier vol, sans préciser leur nature. Le constructeur Boeing, qui a livré l'appareil, s'est dit prêt à fournir une assistance technique à l'enquête.
Au Brésil, le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, un ancien officier, a été largement élu hier à la présidence au terme d'une campagne électorale sous tension qu'il a axée sur la lutte contre la corruption politique et la criminalité. Compte rendu, Claire Morin-Gibourg.
plus de 30 ans après la fin de la dictature, le Brésil a élu son premier président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 55% des voix. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2019.
Nosso governo será formado por pessoas que têm...
Au cours de ses premiers discours hier soir, Bolsonaro n'a eu aucun mot pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Mais sur Twitter, le candidat malheureux a souhaité bonne chance au vainqueur. Haddad a également demandé hier soir que ses 45 millions d'électeurs soient respectés. Jair Bolsonaro avait promis à ses opposants et aux rouges la prison ou l'exil. Il a obtenu le vote de près de 58 millions de Brésiliens en se présentant comme un candidat anti-système et appuyant toute sa campagne sur le virulent sentiment contre le Parti des travailleurs qui avait remporté les quatre dernières présidentielles et est jugé responsable des maux du Brésil. L'ex-militaire Bolsonaro succède au conservateur Michel Temer qui se retire sur un taux d'impopularité historique et laisse un pays miné par la violence, le chômage et la corruption.
Il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Gabon, la Caisse des dépôts et de consignations finalise le lancement d'un fonds de private equity doté de 20 milliards de francs CFA. Ces ressources seront utilisées pour investir dans le marché immobilier. L'institution reste aussi ouverte à d'autres investisseurs non gabonais. Avec plus de 5% de croissance par an, le Gabon offre de nombreuses opportunités, notamment dans le secteur hors pétrole, qui connaît une croissance soutenue. Le Tchad va bénéficier d'un soutien de 125 millions de dollars de la Banque mondiale pour finaliser des projets de développement. Ce financement doit permettre de renforcer la résilience économique et d'amorcer la relance budgétaire du pays. Il doit également appuyer l'aide aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Il est accordé sous forme de dons dans le cadre de deux accords signés entre le ministère tchadien de l'économie et la représentation de la Banque mondiale au Tchad.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Cyclisme, pour commencer, Mathias Sorgho a enlevé l'étape 4 du Tour du Faso.
Déjà vainqueur de la deuxième étape de l'épreuve, le Burkinabé s'est imposé lors de cette quatrième étape courue aujourd'hui entre Lai et Waigua, 148 km. Il a bouclé le parcours au sprint en 3h32 minutes 27 secondes devant Guy Smet et Eric Nobel. Il endosse du même coup le maillot jaune du leader. Au classement général, Mathias Sorgho possède 22 secondes d'avance sur Georges Angraff. Rick Nobel est troisième à 1 minute 49 secondes. Place à la cinquième étape demain entre Yako et Zignaré, 145,6 km.
Football, désormais 50 buts pour Sadio Mané en Premier League.
Et oui, auteur d'un doublé contre Cardiff ce week-end, l'attaquant sénégalais a inscrit ses cinquième et sixième buts en Angleterre. Au même moment, il est entré dans le cercle très fermé des joueurs africains, ayant inscrit au moins 50 buts en Premier League. Sadio Mané a marqué en tout 29 buts en championnat avec Liverpool depuis son arrivée chez les Reds. Mais bien avant, il a inscrit 21 buts avec Southampton. Il est le septième joueur africain à atteindre les 50 buts dans le championnat anglais. Derrière Didier Drogba, 104 buts. Emmanuel Adebayor, 97 buts. Yakubu, 95 buts, entre autres.
Toujours en football, Ronaldo est revenu sur les raisons de son départ du Real Madrid.
Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début, a déclaré Cristiano Ronaldo, parti du Real Madrid pour la Juventus, dans un entretien avec le journal France Football. Si j'avais fait de mon transfert une affaire d'argent, je serais allé en Chine, où j'aurais gagné 5 fois plus qu'ici ou qu'au Real. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric, assure le Portugais qui dit mériter le ballon d'or cette année. Oui, je rêve de gagner le ballon d'or pour la 6e fois et de dépasser, dans le cas présent, Lionel Messi a affirmé CR7.
Et puis athlétisme, Abraham Kiptum a battu le record du monde du semi-marathon.
L'athlète kényan l'a fait en s'imposant sur le parcours de Valence en Espagne en 58 minutes 18 secondes. Abraham Kiptum détrône ainsi l'Érythréen Zerzenei Tadisse qui avait réussi 58 minutes et 23 secondes Saint-Antigone à Lisbonne en mars 2010. Kiptoun, 29 ans, avait terminé deuxième du semi-marathon de Copenhague en septembre et détient un record personnel de 2h5 minutes 26 secondes sur le marathon établi à Amsterdam en octobre 2017.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. D'emblée, cap sur la Mauritanie pour parler de la situation des jeunes face au chômage qui menace cette couche de la population. Comment font-ils pour tacler cet épineux problème? John Linden, notre envoyé spécial à Nouakchott, est allé à la rencontre de certains de ces jeunes. Reportage.
Comme beaucoup de jeunes en Mauritanie, Mustapha, dont le foyer compte 2 femmes et 10 enfants, peine à joindre les deux bouts. En cause, le chômage qui frappe durement les jeunes.
Travailler. Il faut que tu dois avoir des gens qui ont te connu pour que tu travailles. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas travailler. Même si tu as tes papiers et tu viens, tu ne peux pas, tu ne vas pas travailler. Si tu n'es pas avec quelqu'un de connaître, tu ne peux pas travailler.
Et son cas n'est pas isolé, mais les jeunes ne baissent pas les bras. Dans ce quartier populaire de la capitale mauritanienne, Harouna Barry, qui dénonce le manque d'accompagnement des jeunes, a décidé de prendre son destin en main en ouvrant une boutique.
Avant de faire cette boutique, j'ai travaillé avec des boutiques là-bas au 5e, c'est là-bas qu'on travaillait avec quelqu'un d'autre. Donc avec ça, on a appris donc, comment faire les boutiques et comment encore améliorer notre travail. Et ainsi de suite, on a eu l'idée encore d'ouvrir une boutique. Et c'est assez l'idée, donc on a développé l'idée et on a fait cette boutique. Et grâce au grand Dieu, on a pu avancer petit à petit.
Le petit commerce, une voie peut-être salutaire pour beaucoup de jeunes en Mauritanie. Fatou, qui a ouvert avec son mari une boutique où elle vend poissons et légumes, semble s'y accrocher.
Ça va, on se débrouille seulement. C'est dur quand même, on se débrouille petit à petit.
Pour Chexi, qui a travaillé dans l'événementiel et pendant des années comme taximan, la solution au problème du chômage des jeunes en Mauritanie devrait venir du gouvernement avec, à la clé, des formations gratuites.
Ce que je vois pour le gouvernement, plus est la jeunesse, qu'il n'y a pas beaucoup de centres de formation gratuites. Donc les centres de formation, il n'y en a pas, on ne trouve pas sur les centres de formation. Si tu n'as pas les moyens d'aller pour payer, c'est très difficile pour aller trouver un centre de formation gratuitement.
Reste à souhaiter que ce cri du cœur soit entendu dans un pays où les jeunes représentent 60 à 65% de la population. John Linden, VOA Afrique, Nouakchott.
Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Plusieurs députés ayant servi sous le régime de son prédécesseur, Yayi Boni, ont été privés de leur immunité parlementaire. Pour beaucoup, cela ressemble plus à une traque politique. C'est ce que nous rapporte Ginette Fleur Adande, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Tolérance zéro face à la corruption dans toutes les sphères de la gestion publique. C'est le slogan qui justifie un remue-ménage terrible au sein de l'administration publique béninoise. Bien de directeurs de sociétés publiques ont perdu leur liberté du jour au lendemain. Dernièrement, des députés de la minorité parlementaire ont perdu leur immunité à la demande de l'exécutif afin de répondre à des charges qui pèsent contre eux dans certains dossiers datant de la gouvernance Yayi Boni. Au sein de la population, les avis restent partagés. Pour certains, il était temps que la lutte contre la corruption quitte la théorie pour la pratique.
Si quelqu'un a volé ce pays, il n'a qu'à le répondre.
Moi, j'étais content lorsque j'ai attendu ça. Parce que nos dirigeants, ils ont l'habitude de jeter notre argent par le fenêtre.
Tout ce qu'ils ont volé là, ils n'ont qu'à payer.
Donner un coup de pied dans le nid de la corruption, oui, mais surtout pas de cette façon, pensent d'autres, pour qui le gouvernement n'est pas si blanc pour oser engager une lutte contre l'impunité.
Qui vient lever l'immunité de qui? La charité bien commence par toi. Il accorde d'abord nettoyer. Là, il est d'abord, avant de nettoyer les
autres.
Qui est propre et qui veut dénoncer qui? Nous sommes dans ce pays. Il y a des choses plus importantes auxquelles il doit s'atteler, il ne le fait pas.
Après le vote qui a ôté l'immunité des trois députés, leur collègue acquis à la cause de l'exécutif contre les accusations explique que c'est une chance qui leur est offerte afin de laver leur nom. Ordène à la Dati.
Lever l'immunité parlementaire ne veut pas dire dépouiller le député de son mandat de député. Et de quoi nous voulons parler? Que parce qu'on est de l'opposition, de la minorité, on doit se soustraire à la justice.
Dans le camp des députés de la minorité parlementaire, on dénonce un acharnement du pouvoir à faire taire toutes les voix capables de le contredire. Le camp du chef de l'État serait truffé de députés ayant des dossiers sales. Guido Soumi Tokwe.
Au nom de quoi allons-nous lutter contre la corruption aujourd'hui alors qu'il y a des députés dans ce pays? Lorsque vous dites leur nom, c'est le synonyme de certains matériaux que tout le monde connaît. C'est une traque politique.
L'élection du président Patrice Talon portait bien d'espoir, déçu après 2 ans de gestion. Il est reproché à l'homme d'affaires une continuité dans la gestion dégradante du régime défunt. Une partie de la population béninoise dénonce le clientélisme et la braderie du pays au profit du chef de l'État et de ses plus proches collaborateurs. Les marchés passés entre les sociétés du président et l'État sont pointés du doigt. Pourtant, dans son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État est revenu sur sa détermination à enrayer la corruption du Bénin.
Il est d'autant plus nécessaire que la corruption atteint depuis de longues années maintenant un seuil insupportable et constitue un frein à l'essor économique de notre pays. Aussi, l'impunité qui en assure la évacuation ne doit-elle plus avoir droit de cité au Bénin?
Le président Patrice Talon pourrait-il en finir avec la corruption au Bénin? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Les mots d'opératoire face à la détermination affichée par le chef de l'État contre la corruption changent et le mal revient au devant de la scène avec virulence. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine, a basculé dans l'extrême droite avec l'élection facile hier du très controversé Jair Bolsonaro. Au terme d'une campagne tendue, extrêmement polarisée, il a été élu avec près de 58 millions de voix, soit 55,13% des suffrages, contre 44,87% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Il affirme qu'à partir du 1er janvier prochain, il gouvernera la quatrième démocratie la plus peuplée au monde, en s'appuyant sur la Bible et sur la Constitution. Il indique que le pays ne peut plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme, le populisme et l'extrémisme de gauche. Pour un décryptage, Eric Manirakiza s'est entretenu avec le spécialiste du Brésil à l'IRIS, Christophe Ventura.
Déjà, le Brésil vit une situation d'anormalité, de dysfonctionnement démocratique depuis 2 ans, et M. Bolsonaro vient ajouter une nouvelle étape à ce processus problématique. Et alors, plus qu'un tournant, j'ai envie de dire qu'il incarne plutôt une accélération et une nouvelle orientation de cette crise-là vers un type de régime politique qui désormais va assumer assez directement à la fois le fait de mettre en place un programme économique et social favorable aux investisseurs étrangers et favorable, disons, aux politiques néolibérales, ultralibérales. Et puis, de l'autre côté, effectivement, un gouvernement qui sera capable d'être assez autoritaire du point de vue politique et du point de vue de la réduction des droits démocratiques dans ce pays. Mais il a pu faire tout ça et il peut arriver maintenant parce que ce pays vit déjà une crise démocratique depuis plus de 2 ans.
Justement, la démocratie demeure fragile, est-ce que le pays ne risque pas de basculer totalement à droite?
Bah écoutez, là, il a basculé de manière assez significative à droite, hein. Il n'y a pas de doute, 55% des voix, plus de 55 millions de Brésiliens ont choisi M. Bolsonaro, qui a un programme très à droite. Alors d'une droite qui est à la fois celle des élites économique et financière, mais aussi une droite qui est plus populaire, qui se retrouve dans un agenda à la fois conservateur sur les questions de société, sur les questions de mœurs, sur les questions de religion, et puis qui croit qu'aujourd'hui, la possibilité d'améliorer le quotidien passe par moins d'État, moins de services publics et plus d'entreprises privées. Bon, c'est assez classique. Donc, Monsieur Bolsonaro représente ça.
Est-ce qu'il y a un risque que le Brésil renoue avec la dictature?
Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Il y a encore une fois, aujourd'hui encore, beaucoup de forces dans la société qui refusent cette possibilité, parce que il faudra voir quelles sont réellement les marges de manœuvre de monsieur Bolsonaro par rapport aux forces qui l'ont mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Est-ce qu'elles veulent sortir de la démocratie ou pas? Ces forces économiques, financières, etc. Et puis, j'ai envie de dire aussi que M. Bolsonaro peut d'un côté faire référence à la dictature, mais par exemple, il n'est pas réellement en phase avec cette dictature, parce que cette dictature au Brésil a été très nationaliste et très souverainiste. Monsieur Bolsonaro ne l'est pas du tout. De manière générale, l'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière.
On écoutait Christophe Ventura, expert du Brésil et chercheur à l'IRIS. Il était en ligne de Paris. Aux États-Unis, l'heure est au recueillement à Pittsburgh, en Pennsylvanie, 2 jours après la fusillade qui a fait 11 morts dans une synagogue. Une attaque qui a envoyé 6 personnes à l'hôpital, dont 3 officiers de police. Dans cette ancienne communauté juive traditionnelle de Squirrel Hill, on essaie toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Morgan Gueriec nous en dit davantage.
Elena Mayo, 14 ans, dirige la cérémonie alors que sa mère allume 2 bougies. Une à la mémoire de son grand-père, une autre pour chaque personne abattue samedi. Dans la tradition juive, les flammes, Yarzait, s'élèvent vers le haut comme des âmes. Les Mayo habitaient à quelques pas de la synagogue, The Tree of Life, en français, l'arbre de la vie. Et samedi, la police a fait savoir que Robert Bowers, 46 ans, a pris part à un service du Shabbat. Criant des propos antisémites, il a ouvert le feu. Il s'agit de la pire attaque contre les Juifs de l'histoire des États-Unis. Les Mayo connaissaient plusieurs des victimes.
Ce sont des personnes qui sont arrivées tôt pour s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut. Elles étaient dans la cuisine, préparaient des repas et faisaient tout ce qu'il fallait pour s'assurer que les gens avaient ce qu'il leur fallait, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées.
Les responsables ont lié le tireur à ses publications anti-juives sur les médias sociaux. Bowers, qui a été blessé lors de la fusillade avec la police, fait face à près de 30 accusations fédérales. Chuck Diamond, l'ancien rabbin de la synagogue, a toujours eu peur qu'une telle tragédie ne se produise.
C'est un crime de haine. Lorsque vous associez haine et arme à feu, le résultat n'est pas bon.
Sur le trottoir à l'extérieur de la synagogue, des centaines de fleurs ont formé un mémorial improvisé. Sur certains bouquets, un seul mot, amour. L'amour a été un des thèmes du service interconfessionnel auquel les résidents de Pittsburgh, chrétiens, musulmans ou juifs, se sont réunis. La foule a pris de court les organisateurs qui ont dû fermer les portes lorsqu'ils ont atteint la capacité d'accueil de 2300 personnes. 1000 autres personnes restées à l'extérieur ont suivi la cérémonie au son des haut-parleurs. Dimanche, les Steelers, l'équipe de football de Pittsburgh, a observé une minute de silence avant le match. Une minute de silence pour les victimes. L'unité dans une ville qui semble déterminée à dépasser la haine.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel,
sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est ici que nous refermons Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneux. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt.